C'est qu'il est tout juste 6 heures.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et Virginie Fulpin pour le premier journal.
La méthode Coué, selon Michel Barnier, le Premier ministre, veut croire que les députés ne voteront pas la censure, mais le plus probable, c'est que le gouvernement chute ce soir. Le niveau des Français en maths reste toujours aussi faible. Le rapport TIMSS est dévoilé ce matin. La France, avant-dernière au niveau mondial. Et puis les rebelles proches de faire tomber une autre ville clé en Syrie. On va voir quel est le rôle de la Turquie dans cette offensive.
Et dans l'actualité, entreprise, encore des suppressions d'emplois. Airbus doit annoncer aujourd'hui 2500 départs dans sa division défense et spatiale. Michel Barnier a décidé d'y croire jusqu'au bout.
Il ne sera sans doute plus Premier ministre ce soir, mais Michel Barnier pourra se vanter d'avoir joué son rôle jusqu'au bout. Quand il est apparu à la télévision hier soir, il était encore combatif en appelant à la responsabilité des députés parce que la censure rendrait tout plus difficile et plus grave, dit-il. Cette interview ressemblait à celle de la dernière chance, Victoire Fort.
Chaque député devra expliquer pourquoi les crédits
sa recette,
dans le
prendre les Français à témoin.
Ou pour les personnes âgées ne sont plus là. Il faudra que chaque député qui va voter la censure aille dire pourquoi et comment les retraites agricoles n'augmenteront pas le 1er janvier 2026.
Parce Michel Barnier s'adresse particulièrement aux électeurs de Marine Le Pen. Les députés RN voteront la motion de censure de la gauche, mais celle-ci insulte leurs électeurs, affirme-t-il. Texte à l'appui.
Vous pouvez lire que le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions, parlant des électeurs. Est-ce que c'est du respect? Il faut savoir qui va être avec qui et qui va être solidaire de qui.
Croit-il vraiment à un sursaut de dernière minute? En tout cas, Michel Barnier ne parle pas au passé.
C'est jamais impossible. C'est toujours difficile.
Le chef du gouvernement balaye les critiques des oppositions qui estiment ne pas avoir été écoutées. Le négociateur du Brexit n'a eu que 3 mois pour trouver une voie de passage avec une Assemblée nationale à la physionomie inédite. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de temps, dit-il.
Je suis fier de servir, mais les dorures qui sont autour de nous, les ordres de la République, je m'en fous. Ce qui se passe dépasse très largement ma seule condition.
S'il part, ce sera la tête haute.
Emmanuel Macron lui joue sur les deux tableaux. Le président ne veut pas croire à une censure ce soir et il pointe le cynisme du Rassemblement National, prêt à voter une motion de censure de la gauche qui insulte les électeurs du RN. Mais en même temps, le président cherche déjà un successeur à Michel Barnier. Les noms de Sébastien Lecornu ou encore de François Bayrou reviennent souvent. On n'en est pas là. Emmanuel Macron sera dans l'avion qu'il ramène d'Arabie Saoudite ce soir quand le vote aura lieu à l'Assemblée Nationale. À 16h, le débat sur les deux motions de censure, d'abord celle de la gauche, puis celle du Rassemblement National, puis le vote. Pour que le gouvernement tombe, il faut que 288 députés votent la motion de censure. Si on additionne la gauche et le RN, ça fait 332. On peut retourner les chiffres dans tous les sens. La censure sera votée, nous dit le constitutionnaliste Didier Mauss. Surtout qu'il n'y a pas d'élection à venir. Les députés n'ont pas à se justifier devant leurs électeurs.
Une motion de censure est adoptée. Le gouvernement démissionne. Il continuera à gérer les affaires courantes tant qu'il n'aura pas été remplacé. La logique du régime parlementaire, dans ce cas-là, c'est de procéder à une dissolution. Mais jusqu'à l'été, on a neutralisé, la Constitution elle-même neutralise l'effet dissolution. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle risque d'être votée. Les députés ne prennent pas beaucoup de risques, là. Bon, ils vont pas retourner devant leurs électeurs. On est dans un cas de figure totalement inédit et improbable.
Des propos recueillis par Servane de Pastre. On vit un moment politique très particulier. Oui, l'Assemblée nationale sens dessus-dessous qui s'apprête à voter la censure du gouvernement. Et pendant ce temps-là, au Sénat, on continue à examiner le budget 2025 comme si de rien n'était. Les sénateurs observent la période avec incompréhension et inquiétude, Charles Ducrot.
Les sages n'apprécient pas le chaos. Ce n'est pas le titre d'un film, mais le fond de la pensée de Patrick Kanner. Aux yeux du chef des socialistes au Sénat, il n'y a qu'un responsable.
Monsieur Macron, permettez-moi, était le dégoupilleur en chef de toute cette situation.
Une dissolution de l'Assemblée et un 49-3 du gouvernement Barnier que le sénateur juge aveuglé.
Comment aurait-on pu l'éviter? Eh bien, en nous accordant à nous, formation de gauche, une des réponses, on n'a rien obtenu.
De gauche à droite, les sénateurs se refont le film. Comment a-t-on pu en arriver là? S'interroge le centriste Laurent Lafont.
Ceux qui étaient en mesure de stopper cette espèce de machine infernale n'ont pas voulu le faire. Les socialistes, le Rassemblement National, pour des raisons pour lesquelles ils auront à s'expliquer, parce que les conséquences de leurs décisions sont pour nous tous encore inconnues.
Du côté des Républicains, parti de Michel Barnier, le fatalisme règne déjà. Le sénateur du Bas-Rhin, Laurent Richard, salue l'action du Premier ministre.
Moi, je lui fais crédit d'une volonté de trouver un accord. On lui reproche à l'heure actuelle d'avoir surtout essayé de trouver un accord avec le Rassemblement National. Je pense que ce n'est pas juste. à peine 2 mois, il n'était pas possible de faire des réformes de fond.
Reste 2 sentiments partagés, l'espoir d'un budget au plus vite en janvier et l'appréhension d'une crise politique inédite.
Une crise politique inédite avec sans doute plus de gouvernement à partir de ce soir, alors qu'une 50aine de chefs d'État débarquent à Paris ce week-end pour les cérémonies de réouverture de Notre-Dame. Voilà entre autres pourquoi Emmanuel Macron veut nommer un nouveau Premier ministre avant samedi.
6h05 sur Radio Classique, Virginie Fulpin, il paraît que les Français sont nuls en maths.
Les élèves vont pouvoir s'entraîner, 577 députés divisés par 2 égale une majorité à 288,5 députés. Le rapport international TIMSS est dévoilé ce matin. Tous les 4 ans, cette étude mesure les connaissances des élèves de CM1 et de 4e en maths. Et la France est avant-dernière. Pourquoi est-on aussi mauvais, Rémi Fister ?
À peine 3% des élèves français de 4e ont un niveau élevé en mathématiques. Ils sont 1 sur 2 en Corée du Sud et au Japon, les deux pays en tête du classement. En France, les connaissances de base sont à peu près connues, mais mal appliquées dans des situations concrètes, voire simples. Les enseignants le reconnaissent. Il y a trop peu de mise en pratique des savoirs quand les pays asiatiques et anglo-saxons se reposent sur la méthode dite de Singapour, qui consiste à illustrer les problèmes mathématiques de façon concrète, avec des jeux, des manipulations, pour évoluer vers une vision moins abstraite des maths. Autre enseignement du rapport, la formation est plus faible en France qu'ailleurs. 15% des professeurs de CM1 ont suivi une spécialisation en mathématiques. C'est 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Quant au programme, la plupart des pays européens enseignent les fractions et les nombres décimaux dès le CE1. En France, c'est seulement à partir du CM1 que l'on s'y intéresse. Mais sur ce point, l'éducation nationale nous confirme qu'elle s'alignera sur nos voisins dès la rentrée prochaine. Enfin, seul bon point pour la France, contrairement à tous les autres pays, le Covid n'a pas fait baisser le niveau des élèves. En 4 ans, il est resté extrêmement stable.
Et demain, pas de cours de maths, en tout cas peu. 65% de grévistes annoncés dans le primaire pour la grève de la fonction publique. Tout va très vite en Corée du Sud. En quelques heures, le président Yoon a décrété une loi martiale en accusant l'opposition de constituer des forces hostiles à l'État. Ça n'a duré que quelques heures. Il a lui-même levé cette loi martiale. Maintenant, l'opposition demande la démission du président. Il va porter plainte contre lui pour rébellion. En Syrie, les rebelles, emmenés par des islamistes radicaux, sont aux portes d'une ville clé, Hama, la 4e ville du pays. L'armée syrienne a envoyé des renforts. Vladimir Poutine s'en mêle en accusant l'Ukraine de soutenir les rebelles. Et le président russe a aussi appelé son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour lui dire qu'il souhaitait une fin rapide à cette offensive. Quel est le rôle de la Turquie dans cette offensive ? David Rigouleros est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. À minima, les Turcs étaient au courant.
Les Turcs ne sont pas forcément mécontents de l'opération en question. Il n'y a jamais eu d'accord, comme Ankara le souhaitait, avec le régime de Damas sur la présence turque au nord, justement, d'Idlib, et sur le fait de pouvoir éventuellement rapatrier des centaines de milliers de réfugiés qui n'ont pas la possibilité de revenir en Syrie, tout simplement parce que le régime de Bachar Assad ne souhaite pas le retour de ces réfugiés. De ce point de vue-là, les Turcs considèrent qu'il y a une opportunité, effectivement, pour axer un affaiblissement du régime de Damas, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des inquiétudes aussi. Si le régime s'effondrait d'un seul coup, il y aurait le risque d'un chaos. Et le chaos est toujours très incertain dans ses attendus.
David Rigouleros répondait à Nina Droff. 6e nuit de manifestation en Géorgie. Les militants pro-européens se sont à nouveau retrouvés dans les rues de Tbilissi hier soir. Et la police a de nouveau utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les milliers de manifestants. Le loup sera-t-il bientôt moins protégé en France ? L'Union européenne modifie le statut du loup d'espèce strictement protégée à espèce protégée tout court. Ce sera en vigueur dans 3 mois. Le sujet divise évidemment. C'est une victoire pour les éleveurs comme Marie-France Forest, éleveuse sur le plateau de Millevaches et secrétaire générale de la FDSEA Corrèze.
Dans notre secteur, il n'y a pas une semaine qui passe sans attaque. L'option que j'ai prise, c'est de rentrer mes animaux tous les soirs en bergerie. Donc, ça demande effectivement un travail supplémentaire. Je me suis équipée de chiens de protection et de clôtures. L'objectif, nous, c'est pas d'être pour ou contre le loup. L'objectif, c'est de protéger nos animaux. On est éleveur. On n'est pas là pour faire naître des animaux qu'on va jeter aux pâtures aux loups.
200 loups ont déjà été abattus cette année en France. Ça prouve bien que ça n'est pas la solution, répond Jean-Luc Valéry, le porte-parole de l'Observatoire du loup.
Quand il y a des tirs de loups qui s'exercent, les loups vont augmenter la surface des zonages dans lesquels ils essaient de se reproduire, jusqu'à 60%. Et bien sûr, il va croiser plus de troupeaux. Et c'est comme ça qu'on finit par rendre le loup intelligent, c'est-à-dire qu'il finit par comprendre que les troupeaux de bovins ne sont pas protégés, il n'y a pas de bergers, il n'y a pas de chiens, et donc il est plus facile d'aborder des génisses ou des veaux. Donc on a un nombre de tirs grandissant et un nombre d'attaques grandissant. Ça va finir par dégénérer, c'est évident ça.
Des propos recueillis par Marine Salaville. Et puis, ils nous ont enchantés à Pékin en 2022, champion olympique de danse sur glace. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron prennent leur retraite sportive. Ça faisait déjà 2 ans qu'ils ne participaient plus à aucune compétition.
Merci beaucoup, Virginie Fulpin. Le prochain journal, ce sera avec Charles Bonner tout à l'heure à 6h30. Dans 3 minutes, l'invité de la France de demain, Antoine Alibert, fondateur de French Moche. À 6h20, Natacha Valla nous parlera de la grande modération. C'est une période économique. Elle s'est achevée au moment de la crise financière de 2008. Et puis à 7h15, on vous parlera de la réouverture de Notre-Dame. Vous savez, Radio Classique s'engage toute la semaine pour vous raconter les coulisses de cette réouverture. Guillaume Poitrinal sera l'invité des Voix de l'économie. C'est le président de la Fédération du patrimoine. On parlera notamment avec lui du financement des grandes familles, des grandes entreprises françaises, mais aussi de généreux donateurs américains. On verra pourquoi justement cette cathédrale est si célèbre, en particulier aux États-Unis, et en quoi les cathédrales peuvent être un élément de soft power. La suite dans un instant avec le rappel des titres de l'économie et le choix d'Éric Mauban.
Gala, plus d'images, plus d'histoires. Cette semaine avec Gala Spécial Fête, offrez-vous Douce Insomnie, la fragrance sensuelle de l'atelier parfum dans un écrin inédit en édition limitée. Gala, la promesse de s'offrir de grands destins. Dans la limite des stocks disponibles, 2,50€ en plus du prix du magazine, liste des points de vente sur gala.fr.
Du 2 au 6 décembre, Radio Classique célèbre la 21e édition des Entretiens qui font rayonner l'esprit français en France et dans le monde. Chaque jour, orateurs et partenaires présenteront les sujets clés abordés lors de la prochaine édition consacrée au thème « Vivre avec l'intelligence artificielle ». Pour tout savoir de la 21e édition des Entretiens au Collège des Bernardins et à l'Abbaye de Royaumont, rendez-vous du 2 au 6 décembre à 7h43 et 19h sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie ce matin, les marchés financiers attendent la censure du gouvernement Barnier dans une relative sérénité. La Bourse de Paris a clôturé hier soir sur une petite progression de 0,26% sur le marché obligataire. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne est resté relativement stable, 84 points de base. On est loin de la tempête financière qui était redoutée par Michel Barnier. Les chefs d'entreprise, eux, s'inquiètent de la probable censure du gouvernement. Les trois principales organisations patronales redoutent un climat d'incertitude alimentée par l'instabilité politique. La CPME, notamment, redoute un éventuel arrêt de l'économie française qui tourne déjà au ralenti. Airbus doit annoncer aujourd'hui 2500 suppressions d'emplois dans sa division spatiale et défense. Un plan de transformation va être présenté cet après-midi aux salariés du groupe. 1 millier de postes sont menacés en France selon les syndicats. Cela concernerait principalement les activités spatiales de l'entreprise. Moins de 2 ans après son lancement en France, Temu, la plateforme chinoise de commerce en ligne, s'est largement imposé auprès des consommateurs. La France est devenue son deuxième marché en Europe, juste derrière l'Allemagne. Temu a désormais dépassé la plateforme française Cdiscount, ainsi que Shein, le spécialiste chinois de l'ultra fast fashion. L'édition 2024 du Black Friday confirme son statut de grand rendez-vous commercial. Après un ralentissement de la consommation de 0,4% au mois d'octobre, les ventes ont littéralement explosé le week-end dernier. Les consommateurs, visiblement, attendaient les promotions du Black Friday. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Les premiers chiffres confirment le succès du Black Friday, à la fois sur Internet et dans les rayons des magasins.
Oui, c'est une agréable nouvelle puisque le dernier chiffre publié par l'INSEE faisait état d'une baisse de 0,4% de la consommation en octobre. De quoi nourrir quelques inquiétudes. Le bilan de fréquentation du Black Friday les a dissipés samedi dernier. 12 millions de Français se sont rendus dans des centres commerciaux. Selon la Fédération des acteurs de commerce dans les territoires, ce chiffre s'approche d'un des meilleurs samedis de Noël. Beaucoup de consommateurs ont attendu cette période de promotion pour effectuer leurs achats pour les fêtes de fin d'année. L'Alliance du commerce qui regroupe 150 enseignes de l'équipe de la personne fait état d'une hausse de 9% en moyenne des ventes sur cette semaine du Black Friday par rapport à celle de l'an dernier. Les promotions ont été plus agressives cette année afin d'attirer l'attention. Le succès a été au rendez-vous, à la grande joie d'ailleurs de nombreux commerçants qui misaient sur cet événement commercial pour sauver leur année.
Le choix d'Éric Mauban tous les matins dans la matinale de l'économie. Dans un instant, l'invité de la France de demain à 6h20 dans les classiques de l'économie. Nous reviendrons avec Natacha Valla sur la grande modération, cette période de stabilité économique qui s'est s'est achevé au moment de la crise financière de 2008. Et puis à 7h15, on parlera dans les voies de l'économie de la réouverture de Notre-Dame avec Guillaume Poitrinal, président de la Fédération du patrimoine. Il est tout juste 6h15 sur Radio Classique. L'invité de la France de demain, Antoine Alibert, président et fondateur de French Mush. Bonjour.
Bonjour.
Vous commercialisez des produits de bien-être à base de champignons, champignons adaptogènes utilisés par la médecine chinoise depuis des siècles pour leurs différentes propriétés. Ils peuvent être énergisants, relaxants, antioxydants. Est-ce qu'on peut parler de produits de santé? Est-ce que la réglementation le permet?
Oui, tout à fait. Alors, ce sont des compléments alimentaires. Donc, aujourd'hui, la réglementation en France les considère comme des compléments alimentaires. Donc, ça peut être pris en prévention pour la santé, pour en effet l'énergie, l'immunité, ou même justement parfois quand on est peut-être en déclin cognitif, on a du mal à se concentrer. Et donc, dans ce cas-là, vraiment avec des vertus un peu plus santé.
Alors, le marché des compléments alimentaires est toujours en nette croissance, plus 3% l'an dernier en France, avec un chiffre d'affaires global de 2,7 milliards d'euros. Cette croissance, vous la ressentez également?
Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que les Français et Françaises s'intéressent de plus en plus, on va dire, à une santé au naturel et encore une fois en prévention, plus que pour, on va dire, soigner les symptômes. Donc, en effet, ouais, y a une nette augmentation de la santé au naturel de façon générale et donc du marché des compléments alimentaires.
Alors, tous vos produits sont à base de champignons, notamment le Lion's Mane, c'est la crinière du lion en français. Vous le commercialisez sous forme de gélules pour stabiliser l'humeur, améliorer les capacités cérébrales et la concentration. Comment est-ce que vous mesurez les effets de ces gélules?
Ouais, tout à fait. Alors, c'est très intéressant puisque, en fait, nous, notre extrait de Lion's Mane ou crinière de lion, en fait, c'est le premier extrait en Europe à avoir été testé cliniquement et à avoir justement une étude scientifique qui a été menée en 2023. Donc, on a mené une étude, justement, on appelle ça une étude double randomisée. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont prendre le complément alimentaire, d'autres le placebo. Et on a pu noter justement une augmentation de la mémoire et de la concentration, de l'humeur et des fonctions cognitives, justement sur le groupe qui avait pris l'extrait de Lion's Mane. Et on est allé un peu plus loin, on a voulu tester justement s'il y avait un effet à court terme. Et en effet, on a réussi à démontrer qu'en moins de 2 heures, il y avait une augmentation de 7 à 8% de la mémoire et de la concentration. Donc justement, ouais, il y a bien sûr plein d'études scientifiques qui existaient déjà, mais nous, on a réussi à démontrer que notre extrait de Lion's Mane, de par sa qualité, augmentait justement les fonctions cognitives.
Vous testez toutes vos gélules de la même manière?
Alors, on va les tester de la même façon dans le futur. On s'est vraiment concentré sur le Lion's Mane dans un premier temps. C'est des études qui coûtent extrêmement cher. Et nous sommes une start-up au final, donc une petite entreprise. On est une entreprise de 20 personnes, donc une belle équipe. Mais on reste une start-up et on a pour projet de tester avec des études cliniques l'ensemble de nos produits. Après, par contre, l'ensemble de nos gélules, l'ensemble de nos champignons sont testés en pesticides, en métaux lourds et en principes actifs et en molécules actives. Ça, bien sûr, c'est une évidence.
Parmi les produits que vous commercialisez, quels sont ceux qui ont le plus de succès? Quels sont les effets qui sont les plus recherchés?
Alors, en ce moment, ce qui est vraiment recherché, c'est beaucoup l'immunité. Et c'est vrai que c'est le cas d'usage principal, justement, des champignons médicinaux. Car en fait, les champignons médicinaux sont concentrés en bêta-glucane. En fait, ce sont des molécules incroyables pour, justement, vous protéger face à l'hiver, face au changement de saison. Donc ça, c'est ce qui est très recherché actuellement. Donc ça, c'est le point commun entre tous les champignons médicinaux. Et le deuxième cas d'usage, c'est vraiment sur la concentration, la mémoire, l'énergie, je dirais même un peu plus globalement la productivité. Et ça, c'est les deux champignons qui vont être recherchés pour ça, c'est la combinaison Lion's Mane et Cordyceps. Parce que c'est important de le préciser, mais on peut consommer plusieurs champignons médicinaux en même temps. Et il y a même un effet synergique justement sur l'immunité et la vitalité, car l'ensemble des champignons médicinaux sont concentré en bêta-glucane.
Antoine Alibert, où sont distribués les produits French Mush?
Alors, vous pouvez les trouver déjà donc sur notre site internet. Nous, on fait 90% de notre chiffre d'affaires en ligne, donc www.frenchmush.com, et aussi en pharmacie. Aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 400 pharmacies en France. Donc c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Donc sur notre site internet ou en pharmacie, et sur notre site internet, vous avez une carte où vous pouvez voir où trouver nos produits si besoin.
Merci beaucoup Antoine Alibert, président et fondateur de French Mush. Natacha Valla nous a rejoint en studio. Il est 6h20, les classiques de l'économie.
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Bonjour Natacha Valla.
Bonjour Stéphane.
Avec vous ce matin, on parle de la grande modération. De quelle période parle-t-on ?
Alors c'est une période qui a duré plusieurs dizaines d'années. Ça commence à peu près dans les années 80 et ça se termine en 2007, juste avant la grande crise financière dont on a tous le souvenir. Et en fait, c'est une période de calme relatif, bien sûr, hein, toute proportion gardée. On sortait d'une période où il y avait eu beaucoup d'inflation, donc beaucoup de changements dans les dynamiques salariales, dans les dynamiques même de croissance. Et à partir de là, eh bien, on a eu des présidents de la Réserve fédérale qui étaient quand même assez particuliers, donc Volcker, Greenspan, Bernanke. Et finalement, ils ont réussi à faire en sorte que l'économie soit stable, que la croissance soit prévisible et qu'il y ait peu d'inflation. Alors, il y a peu d'inflation. Les expansions économiques sont plus longues qu'auparavant, donc c'est quand même plutôt agréable dans l'ensemble pour les ménages et pour les entreprises. Et puis le niveau de vie de façon générale s'est quand même amélioré de façon continue. Donc c'est une période non seulement calme et stable, mais aussi plutôt positive.
Quelles ont été les causes de cette grande modération ?
Alors, vous imaginez bien qu'avec les années qu'on a traversées, notamment depuis 2008, mais aussi récemment, c'est comment on a fait à l'époque pour pouvoir générer cette paix économique quelque part. Alors, il y a trois grandes écoles qui ont donné des réponses. Première, il y aurait eu des changements structurels dans l'économie. Alors, les changements structurels, ça veut dire, par exemple, qu'on est sorti de l'industriel à tout craint, on est allé vers une tertiarisation de l'économie, et les services étant moins volatiles que l'industrie, ça nous a donné une base beaucoup plus stable. Ensuite, il y a des questions d'amélioration des méthodes de gestion, en fait, de l'appareil productif. Par exemple, la gestion des stocks, on a eu la généralisation du just-in-time. On sait aussi que dans la croissance économique, les stocks, on le sait pas en réalité, c'est plutôt les économistes qui regardent ça, mais ça génère beaucoup de volatilité. C'est un peu curieux, mais quand vous stockez beaucoup, ben finalement ça bloque la chaîne, et quand vous stockez moins et que la demande est trop forte, bref, ça crée des tensions, donc de la volatilité. C'est une autre sorte d'évolution structurelle. La révolution technologique, bien sûr, avec des améliorations d'efficacité, améliorations de productivité. Certains ont dit que ça pouvait être la déréglementation, l'ouverture des marchés de capitaux, bref, une meilleure structure. Ça, c'était la première école. Deuxième école, on aurait eu de la chance. Alors, je vais vous dire
tout de suite.
Ce qui n'est pas exclu, on peut parfois en avoir, effectivement. Des fois, on a un Covid qui nous tombe sur la tête, c'est quand même pas de chance. Et puis d'autres, finalement, on a des découvertes technologiques qui s'absorbent bien, ça peut être une chance aussi. Cela dit, alors, c'est des économistes en plus très très talentueux qui ont suggéré Stock et Watson, des économètres même très reconnus. En réalité, quand on regarde les faits dans cette période, je vais vous citer quelques crises, mais on a eu la crise de la dette latino-américaine, les années 80, des grandes faillites aux États-Unis début des années 80, Continental Illinois, voilà, un krach boursier en 87, la crise asiatique. Bref, il y en a quand même eu pas mal de chocs qui sont assez comparables à ceux qu'on a vécu après. Donc, cette deuxième école, elle a mal vieilli. Et puis, certains disent que, ben, finalement, c'est pas trop mal débrouillé au niveau des politiques économiques, de la politique budgétaire, mais aussi de la politique monétaire. Donc,
vous avez mentionné Bernanke, vous avez parlé de Greenspan. Quel a été le rôle des banques centrales dans cette période de grande modération ?
Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est une question qui nous montre qu'à ce moment-là, la politique monétaire et les banquiers centraux sont devenus un peu des stars. Tout le monde connaît, en tout cas aux États-Unis, Volcker, on connaît sa photo, on sait quelle tête ils avaient, on sait quel genre de politique ils menaient.
Alan Greenspan également,
bien sûr. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul, c'est qu'à l'époque, ils se sont dotés d'un instrument qu'on appelle la règle de Taylor et le principe de Taylor. C'est très simple, le principe de Taylor. Ça vous dit, la banque centrale, son rôle, c'est de stabiliser les prix, stabiliser l'inflation. Quand elle voit l'inflation arriver, eh bien, au lieu de réagir de façon exactement proportionnée à l'inflation pour la stabiliser, pour stabiliser les taux d'intérêt réels, elle va augmenter ses taux nominaux plus que l'augmentation de l'inflation. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt réel, le vrai rendement en fait des actifs financiers, il va augmenter. Et c'est ce resserrement un peu plus fort que ce qu'il sera absolument nécessaire, a permis finalement d'éviter d'avoir un peu trop d'inflation. À l'inverse, on pourrait dire, finalement, ça nous a coûté un petit peu de croissance, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a fourni plus de stabilité. Puis c'est une période où les banques centrales ont mieux communiqué quand même. Il faut savoir qu'avant 94, les banques centrales ne communiquaient pas au marché leur nouveau taux directeur. On laissait le marché trouver. Donc, il y avait des opérations de marché, les banques venaient à la banque centrale et il fallait par tâtonnement déduire que le taux d'intérêt était à 3 ou à 4%. C'était un peu compliqué quand même, donc les choses se sont améliorées.
Merci beaucoup, Natacha Valla, pour cette explication sur la grande modération. Natacha Valla, doyenne de l'école de management de Sciences Po. À suivre, l'actualité du classique avec Laure Maison. Bonjour Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est un moment historique. Aujourd'hui, on se prépare au réveil de l'orgue de Notre-Dame.
Eh oui, car samedi, lors de la grande cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, résonnera de nouveau, après 5 ans de silence, le grand orgue Cavaillé-Coll, qui n'avait pas été endommagé par l'incendie, mais qui a fait l'objet d'un grand dépoussiérage. Il a été démonté, puis remonté, pour reprendre place dans la cathédrale. Les différents titulaires seront présents ce soir-là pour le jouer, parmi eux, Olivier Latry. Alors, il nous éclaire sur ce moment particulier qui consiste à réveiller un orgue dans le cadre d'une célébration liturgique.
C'est fabuleux, je dois dire que j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, et déjà plusieurs fois à Notre-Dame aussi, puisque l'orgue a été restauré 2 fois, donc réveillé déjà 2 fois, ça va être la 3e fois. En fait, dans un cas comme ça, c'est l'archevêque qui s'adresse à l'orgue et qui lui parle réellement, comme si c'était une personne. De toute façon, vous savez que un tuyau d'orgue, c'est déjà une personne, parce que il a un corps, il a un pied, il a une bouche, des lèvres, des oreilles des fois, donc voilà, c'est vraiment une personne. Et il va lui dire, comme ça, 8 intercessions. La première, ça va être « Ô orgue, instrument sacré, éveille-toi, chante la louange du peuple de Dieu ». Et là, voilà, bon, sur une phrase aussi simple que ça, il va falloir improviser pendant 1 minute et demie pour essayer de mettre en musique les mots qui viennent d'être dits. Et il va y avoir 8 intercessions comme ça, sur des thèmes différents, sur la Vierge Marie, sur le Christ mort et ressuscité pour nous, etc. Et à chaque fois, il faut essayer de rentrer au plus profond des mots pour ressentir justement l'émotion et la ferveur. En fait, en 8 interventions comme ça, l'orgue retrace la mission d'un organiste. C'est extrêmement, extrêmement touchant.
Une fugue de Jean-Sébastien Bach par Olivier Latry sur l'orgue de Notre-Dame de Paris. Olivier Latry, l'un des titulaires de l'orgue de Notre-Dame, qui le réveillera donc samedi soir avec ses collègues lors de la grande soirée de réouverture de la cathédrale.
Merci beaucoup Laure, on vous retrouve ce soir à 20h.
Très belle journée à tous et à ce soir.
Dans quelques minutes, le journal de 6h30. À 6h40, l'invité de Comment j'ai réussi, Clarisse Merlet, fondatrice de Fabrique. Et puis à 7h15, on parlera de la réouverture de Notre-Dame avec Guillaume Poitrinal. Il est président de la Fédération du patrimoine. 6h29, la météo.
avec la Banque Transatlantique. Donnez de nouveaux horizons à vos projets philanthropiques.
Avec Charles Bonner, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Il fait de plus en plus froid.
Ouais, les températures continuent de baisser avec ce matin des gelées possibles dans le nord-est. Ailleurs, les températures proches de zéro sur quasiment tout le nord du pays. De la fraîcheur et du brouillard par endroits et des nuages bas majoritairement. Dans l'après-midi, le soleil reprend de la place. Surtout dans le sud, les nuages restent présents dans le centre et le nord. Les températures 7 à Rouen, 6 à Dijon, 10 à Bordeaux, 9 à Toulouse et 12 à Marseille.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Charles Bonner pour le journal de 6h30.
À la une ce matin, une loi martiale décrétée, puis annulée en Corée du Sud. Le président recule face à la pression de la rue. En France, une censure avant l'inconnu. Le gouvernement Barnier pourrait tomber aujourd'hui et avec lui les budgets de l'État. Et puis la maîtrise de Notre-Dame se prépare à réenchanter la cathédrale ce samedi pour sa réouverture.
Et dans l'actualité économique, encore des suppressions d'emplois. Airbus va supprimer 2500 postes dans sa division défense et spatiale. On y revient dans le journal de l'économie. En Corée du Sud, le président est poussé à la démission.
Yoon Suk-yeol s'est retrouvé isolé, y compris dans son camp, sous pression après avoir imposé la loi martiale hier pendant quelques heures, accusant l'opposition de constituer des forces hostiles à l'État, évoquant même une menace de la Corée du Nord. Le tout sur fond de désaccord sur le budget. Bonjour Marc Tédé.
Bonjour Charles.
Le président a donc dû reculer.
Oui, ce mercredi, les démissions se multiplient d'ailleurs dans l'entourage du président Yoon Suk-yeol, y compris celle de son chef de cabinet et de son conseiller à la sécurité nationale. L'opposition promet d'engager une procédure de destitution de ce président minoritaire au Parlement et elle porte plainte pour rébellion. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dès ce matin dans le centre de Séoul, où il est actuellement 14h30. Même la formation du président, le parti du pouvoir au peuple, lui demande d'expliquer cette situation tragique immédiatement et en détail et assure que tous les responsables devront rendre des comptes. Mais surtout, la principale intersyndicale du pays, forte d'1,2 million adhérents, appelle à une grève illimitée jusqu'à la démission du président Yoon Suk-yeol. En 2017, une colère populaire avait déjà provoqué la démission de la présidente d'alors, Park Geun-hye.
Marc Tédé, en Syrie, les rebelles continuent d'avancer désormais aux portes de la ville de Hama, la quatrième du pays. L'armée va envoyer des renforts soutenus par l'aviation russe. Hama se situe entre Alep, déjà sous contrôle des rebelles, et Damas, la capitale.
En France, Emmanuel Macron exclut de démissionner.
C'est de la politique fiction, dit-il, alors que l'Assemblée nationale se penche sur les motions de censure à 16h cet après-midi. Fruit, selon le président, d'un cynisme irresponsable du Rassemblement national, qui aurait pour conséquence de faire tomber le gouvernement Barnier, mais aussi de rejeter le budget de la sécurité sociale, ainsi que logiquement celui de l'État. Une situation inédite dans la Ve République qui provoquerait une forme de paralysie du Parlement. Pour le moment, le Sénat continue de débattre du budget de l'État avec le sentiment de travailler pour rien, selon André Reichard, sénateur LR du Bas-Rhin.
Si effectivement cette motion de censure devait être votée à l'Assemblée nationale, il est clair que nos travaux ici s'arrêtent immédiatement. À l'heure actuelle, la deuxième partie du projet de loi de finances, on y travaille matin, midi, soir, nuit et samedi, dimanche compris. Donc voilà, tout peut s'arrêter. C'est naturellement un grand trait sur tout ce qui a déjà été fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas arrivé encore à un équilibre du budget que l'on souhaite ici au Sénat. Ici, nous souhaitons véritablement voter un budget en équilibre et qui se traduit déjà par un certain nombre de réductions de dépenses publiques que tout le monde appelle de ses vœux.
Propos recueillis par Charles Ducrot. Ce budget de l'État, logiquement, tout comme celui de la sécurité sociale, vont donc être rejetés. C'est donc le budget de cette année, voté donc en septembre 2023, qui devrait être reconduit, à ce qui risque, à cause de l'inflation, de faire augmenter les impôts de 18 millions de Français, selon Michel Barnier. Pour les entreprises également, les conséquences seraient néfastes, notamment pour le logement. Écoutez Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier.
L'annonce de la restauration du prêt à taux zéro sur les constructions neuves et l'existant pour les primo-accédants et sans distinction de territoire semblait être acquise et la remise en cause du PLF empêche ce dispositif, ce qui sera préjudiciable à nombreux ménages qui avaient besoin d'être accompagnés et avoir ce soutien financier.
Pour autant, certains secteurs pourraient se réjouir, notamment le transport aérien qui échappe pour l'instant à une hausse de taxes. Antoine Gaudier, le porte-parole du syndicat national des pilotes de ligne.
clairement, s'il n'y a pas de budget pour le transport aérien, c'est un répit, effectivement. Pour autant, on a toujours des raisons d'être inquiets parce que l'Assemblée l'avait voté, le Sénat l'a un petit peu modifié, mais l'a voté également. Donc ça nous donne juste un peu de temps pour de nouveau repartir avec nos bâtons de pèlerin pour expliquer que le vecteur de cette taxation est mauvais pour l'économie d'une industrie complète.
Dossier préparé par Zoé Pallier, l'aérien justement en grève demain, tout comme la fonction publique. L'aviation civile demande l'annulation de vols à Paris, 10% à Charles de Gaulle, un quart à Orly, la moitié à Marseille et 20% à Toulouse. Avant la tempête, puis la torpeur à l'Assemblée nationale, hier les députés ont approuvé le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie, sans réserve de prix. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat.
6h35 sur Radio Classique, la réouverture de Notre-Dame de Paris, observée aux États-Unis.
Et car la cathédrale y est populaire, son incendie largement couvert par la presse, ce qui a provoqué un afflux de dons. Presque 20% des donateurs sont américains. C'est le deuxième pays représenté derrière la France. Des dons centralisés par Michel Picot, le président de l'association Friends of Notre-Dame de Paris.
Beaucoup d'Américains connaissent... Par exemple, le roman de Victor Hugo, on a vu les films sur le bossu de Notre-Dame. Puis il y a un attachement aussi historique du fait des images de l'armée américaine sur le parvis de Notre-Dame à la libération de Paris en août 44. Il y a un sentiment d'appartenance qui a été en fait exacerbé par les images dramatiques de l'incendie. Beaucoup d'Américains ont suivi quasiment en direct l'incendie de Notre-Dame. Ça contribue au soutien très fort que les Américains apporte pour la restauration de cette cathédrale.
Michel Picot avec Nina Droff. Il reste donc 3 jours avant la réouverture de la cathédrale. Le symbole de sa renaissance visuelle d'abord, mais aussi sonore. C'est aussi ce qui donne vie à une église. Ses cloches, son orgue et ses chants, la maîtrise de Notre-Dame va donc y revenir ce week-end, Lauriane Tout-le-Monde.
Au tout début de la cérémonie d'ouverture ce samedi, par 3 fois, l'archevêque tapera avec sa crosse sur les portes de Notre-Dame. La cathédrale lui répondra avec les voix des 80 chanteurs de la maîtrise de Notre-Dame, dont celle de Mathieu Lecuyer, 26 ans.
C'est ma 4e année à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Pour la première fois, je vais chanter dans la cathédrale après tant de photos vues et tant d'histoires racontées. C'est historique, c'est une fierté. Ça va devenir un peu une deuxième maison. Le vrai mystère qui demeure, c'est le son inconnu encore pour nous. Donc comment nous allons sonner dans Notre-Dame ?
Réponse dès aujourd'hui. Henri Chalet, le directeur et chef de chœur principal de la maîtrise de Notre-Dame.
Aujourd'hui, c'est une journée assez émouvante pour moi et pour les chanteurs puisque on va pouvoir répéter pour la première fois dans la cathédrale avant la réouverture. Et donc on va découvrir à la fois la beauté des pierres et en même temps chercher très vite à réapprendre à chanter dans cette cathédrale et à dompter cette acoustique. C'est un temps très court puisqu'il reste 3 jours avant la réouverture. Un léger stress évidemment puisqu'il faut qu'on soit à la hauteur de cet événement historique. Il a fallu que sur 850 ans ça tombe sur nous. Donc là évidemment on a tous les yeux qui sont brillants d'impatience. Et voilà, je suis l'homme le plus heureux sur cette terre en ce moment.
Avec pas moins de 50 concerts prévus, la saison promet d'être chargée. Elle débute après les festivités de réouverture à partir du 17 décembre.
Et vous entendez là un extrait du Magnificat, le nouvel album de la maîtrise de Notre-Dame qui vient tout juste de sortir.
Merci beaucoup Charles Bonner. Nous reviendrons également sur cette réouverture avec Guillaume Poitrinal, président de la Fédération du Patrimoine. Il sera l'invité des Voix de l'économie tout à l'heure à 7h15, dans un instant l'invité de la France de demain. De Comment j'ai réussi.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Le Monde et Télérama donnent rendez-vous aux lycéens, étudiants et parents au Salon des formations artistiques les 7 et 8 décembre à Paris-Montreuil Expo. Conférences, rencontres avec les représentants des écoles d'art, participation à des ateliers et animations, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Inscription gratuite sur salon-artistique.lemonde.fr.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Comment j'ai réussi reçoit ce matin Clarisse Merlet, fondatrice de Fabrique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte et pendant toute votre formation, vous avez travaillé, vous avez réfléchi sur la manière de construire en utilisant nos déchets. Alors, vous avez étudié différents types de déchets et finalement, vous avez choisi de construire des bâtiments à partir de vêtements recyclés. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors c'est assez simple, on récupère du textile qui est hors d'usage, donc on peut pas du tout reporter, même en seconde main. On vient le broyer, le mélanger à un liant écologique que j'ai inventé, et ensuite on compresse sous forme de briques. Et donc aujourd'hui c'est pour faire de l'aménagement intérieur, mais j'espère bientôt pouvoir faire de la construction avec.
Aménagement intérieur, ça veut dire qu'on peut construire quoi avec ces briques, des cloisons de séparation, des systèmes d'isolation ?
Oui, aujourd'hui, ça va être surtout du revêtement mural pour de l'isolation thermique et de l'absorption acoustique. C'est esthétique, donc on choisit la couleur des briques. En fait, on vient trier les textiles par couleur avant le broyage. On rajoute pas du tout de colorant. Et on fait du coup de l'aménagement, donc des cloisons, du mobilier aussi. On peut créer des bibliothèques, des assises, des lampes, tout ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pour la partie décoration, mais c'est la première étape puisqu'on veut vraiment aller sur la construction après.
Est-ce qu'il y a des contraintes en matière de type de textile ?
Non, on peut tout mélanger au début. Je pensais que je pourrais recycler que du coton. Et finalement, on arrive à recycler aussi toutes les matières plastiques. Tant qu'on le mélange à du coton, on peut tout prendre. Et on prend aussi tous les points durs, donc les boutons, les zips. On démonte pas du tout le vêtement, on met tout dans le broyeur.
Est-ce que c'est solide ? Est-ce que c'est durable ?
Alors, c'est durable, oui. Et c'est solide. C'est assez solide pour faire du revêtement. Et nous, on a fait le choix de ne pas mettre de résine du tout ou d'ingrédients pétro-sourcés. Donc, ça reste un aspect assez brut et assez doux au toucher. En fait, c'est comme doux comme un vêtement, finalement, pour les murs. Et le parpaing, j'espère, et le bloc de construction sera beaucoup plus solide.
Comment est-ce que les professionnels ont accueilli votre initiative ?
Bah plutôt bien, puisque j'ai deux types de professionnels avec qui je travaille. C'est ceux qui veulent recycler leur textile et ceux qui veulent des matériaux éco-responsables. Et donc, ceux qui veulent recycler leur textile sont de plus en plus obligés de trouver des solutions, parce qu'ils n'ont plus le droit d'incinérer ou d'enfouir leurs déchets textiles. Et les architectes, de l'autre côté, cherchent de plus en plus des matériaux éco-responsables, parce que pareil, ils sont obligés de mettre un certain pourcentage de matériaux responsables dans leur projet.
Vous recyclez 15 tonnes de textiles par an, pour l'instant. C'est facile à trouver ?
C'est le seul problème qu'on n'a pas. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 tonnes de déchets textiles en France. Donc, avec mes 15 tonnes, je suis...
Le sourcing est relativement facile.
Oui.
Quel est le potentiel ? 15 tonnes, vous avez un objectif ?
Oui, on aimerait passer à 50 tonnes d'ici 2027. Je viens justement de boucler une levée de fonds pour y arriver.
Ouais. Vous êtes pour l'instant implanté dans Paris intramuros. Si vous arrivez à 50 tonnes, que vous passez vraiment à une échelle industrielle, est-ce que vous allez finalement sortir de Paris ?
Oui, je pense que ce serait indispensable. Là, l'idée, c'était d'avoir le showroom et l'atelier au même endroit. Comme ça, on peut montrer à nos clients en direct ce qu'on fait, en toute transparence. Et donc, l'idée, c'est de finir le projet pilote dans Paris pour ensuite pouvoir le dupliquer en France, mais pourquoi pas en Europe et à l'international, puisqu'on a déjà demande dans ce sens.
Les produits textiles sont souvent pleins de produits polluants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces briques de diffuser à l'intérieur des bâtiments des polluants qui sont contenus dans les fibres textiles ?
Alors j'en avais peur aussi, du coup on a fait des tests en laboratoire et finalement on est COV A+, ça veut dire qu'on rejette rien du tout une fois que la brique est figée, c'est figé.
Et il n'y a pas de produits chimiques ajoutés pour assurer la solidité de la brique ?
Alors non, ça a été tout l'enjeu, c'est que moi, c'était mon projet de diplôme à l'école d'architecture au départ, donc j'avais créé une colle 100% écologique, donc c'était faisable à petite échelle, mais c'était dur de l'imaginer à plus grande échelle et finalement j'ai réussi à tenir, donc aujourd'hui notre liant n'a que 3 ingrédients, c'est la secret sauce, mais c'est un ingrédient biosourcé et 2 minéraux.
Alors on va parler d'argent. D'abord, le prix de ces briques, est-ce que c'est compétitif par rapport à d'autres matériaux ?
Pour le moment, on est assez élevé. On est un peu plus cher que du marbre, pour comparaison. Donc on est à 5 euros la brique. Donc ça fait 250 euros le mètre carré.
Ouais,
donc
c'est très cher.
Voilà, c'est ça. Si on fait tout à la main, on ne fait que 200 briques par jour. On fait tout en France, comme vous l'avez dit. Donc c'est assez cher. Et l'idée avec cette nouvelle levée de fonds, c'est de pouvoir faire plus de briques, recycler plus et que ça soit moins cher à l'avenir.
Alors justement, la levée de fonds, qui est-ce qui vous finance ?
C'est un investisseur privé, donc un business angel, qui a déjà investi sur Fabrique en 2021. Qui réinvestit là aujourd'hui et deux subventions aussi de la région Île-de-France et de l'ADEME.
Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous présenter votre initiative à la fois écolo et originale. Clarisse Merlet, fondatrice de Fabric. Ça s'écrit Brick, B-R-I-C-K, brique donc à l'anglo-saxonne. Et je rappelle donc, vous êtes architecte et c'est le fruit de vos années d'études, ce projet, cette entreprise Fabric. 6h44 sur Radio Classique, à suivre l'esprit des mots avec Luc Ferry.
Gala, plus d'images, plus d'histoires. Cette semaine avec Gala Spécial Fête, offrez-vous Douce Insomnie, la fragrance sensuelle de l'Atelier Parfum dans un écrin inédit en édition limitée. Gala, la promesse de s'offrir de grands destins. Dans la limite des stocks disponibles, 2,50€ en plus du prix du magazine, liste des points de vente sur gala.fr.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Luc Ferry.
Bonjour Stéphane.
Philosophe, ancien ministre, ce matin vous allez décortiquer une expression pour nous, la brebis égarée. Ça vient d'où ?
Alors c'est un symbole du pêcheur, c'est dans Luc chapitre 15 et c'est présenté par Jésus par l'évangile comme une parabole. Il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue? Et alors le bon berger, c'est celui qui, paradoxalement, c'est pas du tout utilitariste, hein, c'est celui qui va laisser les 99 brebis dans le désert pour aller en sauver une seule. Pourquoi? C'est bizarre, hein, d'un point de vue utilitariste, on dirait un utilitariste anglais, dans la morale utilitariste.
Il court le risque de perdre les 99 autres.
Il y a peut-être des loups ou des lions. Donc il faut d'abord protéger les 99. Pourquoi en sauver une plutôt que 99? C'est pas logique. Et alors, Jésus, la parabole continue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue, donc symbole du pêcheur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pas besoin de repentance. Voyez, quelle est l'idée de cette parabole? Alors souvent, on fait une distinction entre parabole et allégorie. J'ai du mal à la voir parce qu'on dit allégorie, c'est une suite de symboles, parabole. C'est au fond une allégorie avec des symboles aussi, comme là c'est bien la brebis, le symbole du pêcheur, bon, et le berger, le symbole du sauveur, donc on est bien dans une parabole qui est allégorique. Bon, alors laissons la cuistrerie de côté. Donc bien sûr, c'est ce qui est très intéressant dans cette parabole allégorique, c'est que c'est une parabole sur le pardon, sur la repentance et sur la conversion. Ce que veut dire Jésus, c'est que un juste, il a pas besoin d'être repêché. Il n'a pas besoin d'être sauvé à proprement parler. Il est déjà sauvé s'il est vraiment juste. Mais ce qui est intéressant, c'est le cas du pécheur. Et c'est le cas du pardon. C'est celui qui peut être pardonné pourvu qu'il se repente. Même au dernier moment. Et donc, c'est l'idée qu'au dernier moment, on peut être sauvé. Et c'est pour ça que l'Église est contre l'euthanasie. Les gens comprennent pas ça. C'est pas parce que l'Église est méchante et qu'elle veut voir les gens souffrir au moment de la fin de vie. C'est parce qu'elle dit, mais même au dernier moment, si le pécheur se repentit vraiment, comme la brebis égarée, eh bien, le repentir peut le sauver. Donc, ne privez pas le pécheur de cette possibilité de la conversion au dernier moment, du repentir au dernier moment, et la brebis égarée qui revient dans le troupeau. Voilà, et c'est ça qui est derrière. Alors, on peut évidemment contester ça, mais d'un point de vue lexicographique, comme disent les cuistres, la lettre A vient toujours avant la lettre B, même si elle est suivie d'un Z. Azimut, ça vient avant Baliverne, voilà. Avant BA, AZ vient avant BA. Ben là, de la même manière, sauver un pêcheur, c'est plus important que protéger 99 justes.
Merci beaucoup, Luc Ferry. On se retrouve demain.
Le journal de l'économie avec Stéphane Pedrazzi.
Trois titres dans l'économie ce matin. Les patrons inquiets, les marchés attentistes. Sauf surprise, le gouvernement Barnier va être renversé cet après-midi par une motion de censure. Airbus va supprimer 2500 postes dans sa division militaire et spatiale. Un millier sont menacés en France. Et puis Temu, la plateforme chinoise de commerce en ligne, séduit de plus en plus les consommateurs français. Trois mois, pratiquement jour pour jour après sa nomination, le Premier ministre Michel Barnier va probablement être censuré cet après-midi par les deux principales forces d'opposition, à gauche et à droite. Avec la chute du gouvernement tombe également le projet de budget pour 2025. La France ne sera pas paralysée pour autant, c'est probablement le budget de cette année, 2024, qui sera automatiquement reconduit. Certains secteurs économiques en sortiraient gagnants, d'autres perdants. On fait le point avec vous, Zoé Pallier, quels seraient les premiers pénalisés ?
Parmi ceux qui ont le plus à perdre, le secteur de la défense. Plus de 3 milliards de hausses de crédit prévues pour 2025, potentiellement balayées avec la censure. Cela signifie pas de revalorisation des soldes des militaires, 700 recrutements en moins et du retard pour la commande du porte-avions nouvelle génération, énumère-t-on au ministère des Armées. Autre grand perdant, les agriculteurs. Le projet de budget 2025 devait faciliter les transmissions d'exploitation, réduire la fiscalité sur le gazole non routier ou encore améliorer le calcul de leur retraite. C'est une perte énorme, souffle un cadre de la FNSEA. Les acteurs du logement s'inquiètent eux aussi. Sans projet de loi de finances, pas d'élargissement du prêt à taux zéro, mesure censée relancer le marché de l'immobilier.
Et pour les gagnants, Zoé Pallier, qui seraient les secteurs favorisés ?
Eh bien, il y a ceux qui échappent aux hausses de taxes, le fret maritime par exemple, ou encore le secteur aérien qui redoutait une facture d'1 milliard d'euros. Même soulagement pour les opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs. Les industriels de l'agroalimentaire sont quant à eux épargnés par la hausse de la taxe soda. Quant aux complémentaires santé, elles n'auront finalement pas à prendre en charge 1 milliard de dépenses supplémentaires.
Et pour le secteur de la santé, c'est le début d'une période d'incertitude, le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'ayant pas été adopté. Thierry Hulot, le président du LEM, qui regroupe les entreprises du médicament, exprime son inquiétude. La situation actuelle doit nous amener, il le dit, à réformer le système de santé français.
Il avait été prévu dans le PLFSS qui va être rejeté, un plan d'économie qui ferait l'objet d'un contrat entre l'État et les industries du médicament. C'est une mesure qu'on continuera de porter et il y aura des discussions. Et ce dont il va falloir s'assurer, c'est que face à cette phase d'instabilité supplémentaire, on avait déjà eu 5 ministres de la Santé en un an, mais on va continuer à travailler. Je suis inquiet parce que pour moi, l'urgence, c'est de réformer le système dont tout le monde s'accorde à dire que quelque part, il est à bout de souffle. Et donc, assurons-nous que malgré cette phase d'instabilité, à l'arrivée, on ne perde pas de temps.
Les marchés financiers attendent la censure du gouvernement Barnier dans une relative sérénité. La Bourse de Paris hier soir a terminé sur une petite progression de 0,26%. Sur le marché obligataire, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est resté hier relativement stable. 84 points de base, on est loin de la tempête financière redoutée par Michel Barnier. Attention de ne pas exagérer le risque de crise financière, préviennent certains économistes. Cela pourrait entraîner une modification du comportement des ménages et des entreprises et alimenter le risque de récession. Une sorte de prophétie autoréalisatrice, comme nous l'explique Christopher Dembick. Il est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
Les prophéties autoréalisatrices, on les trouve dans toute décision d'un agent économique. C'est-à-dire même un ménage, par exemple, va éventuellement consommer plus ou moins. Si vous avez une incertitude politique plus globale, c'est la même chose pour les investisseurs étrangers pour investir dans un pays. Quand vous êtes une entreprise et que vous entendez parler d'un risque de crise financière, bien évidemment, vous n'allez pas investir dans un pays qui pourrait potentiellement faire face à une crise financière. Donc, il faut être très prudent sur les termes utilisés, sur toute cette dramatisation qu'il y a lieu aujourd'hui. Parce que malheureusement, ça va se répercuter. Même avant que le risque ne se matérialise réellement, il a déjà un impact sur l'économie réelle et sur les marchés financiers.
Et de leur côté, les chefs d'entreprise s'inquiètent de la probable censure du gouvernement. Éric Mauban, les trois principales organisations patronales redoutent un climat d'incertitude alimenté par l'instabilité politique.
Ce tir groupé sonne comme une alerte. La crainte est de voir toute l'économie française plongée dans le noir, sans visibilité. Une perspective que redoutent beaucoup d'observateurs, car l'activité économique tourne déjà au ralenti. De nombreux dossiers industriels importants à traiter n'avancent pas suffisamment vite. Des fonds peinent à être débloqués alors que le temps presse. Par ailleurs, les organisations patronales redoutent une accélération de la dérive des comptes publics. Elle serait de nature non seulement à éroder la confiance des investisseurs, mais également à limiter les marges de manœuvre financières de l'État en faveur de la recherche, de l'innovation, de l'éducation, de la transition écologique. De quoi nourrir de vraies inquiétudes dans les entreprises. De leur côté, les syndicats, eux, ne cachent pas leur inquiétude, mais tiennent à se cantonner aux sujets sociaux.
Et depuis quelques semaines, c'est un peu la valse des plans sociaux. De nouvelles suppressions d'emplois doivent être annoncées dans les prochaines heures. Airbus va présenter un plan de transformation pour sa branche défense et spatiale. Selon les syndicats, 2500 suppressions de postes sont programmées, 1 million en France. Cela concernerait principalement les activités spatiales du groupe, car l'activité satellite d'Airbus traverse une mauvaise passe avec des pertes estimées à 1,6 milliard d'euros, Eric Cuache.
En période pré-Covid, Airbus s'était positionné de manière très agressive pour remporter des contrats. Le groupe promettait aux clients des satellites de pointe, moins chers que la concurrence, et livrés dans des temps records. Problème, les cadences n'ont pu être tenues, les technologies promises se sont avérées immatures. Résultat, les contretemps se sont accumulés, ainsi que les pénalités de retard. Dans un secteur spatial en mal de demande, Airbus doit rationaliser son organisation pour améliorer la compétitivité, avait assuré la direction en octobre. En clair, il faut supprimer des postes. Or, les carnets de commandes sont pleins, ce qui fait craindre au syndicat une dégradation des conditions de travail. Il faudra faire autant avec moins de personnel, dénonce entre autres la CFE-CGC. Pour redresser les comptes, la direction souhaite aussi baisser le budget de recherche et développement, ce qui inquiète en interne. Dans un secteur qui innove en permanence, réduire l'effort de recherche, c'est prendre du retard sur nos concurrents, déplore un ingénieur du groupe. Pour retrouver de la compétitivité, selon des sources internes, Airbus pourrait également se rapprocher de son concurrent, mais aussi partenaire Thales Alenia Space.
Avec 12 millions de destinataires par mois, la France est le deuxième marché européen de Temu, derrière l'Allemagne. Temu, c'est une plateforme chinoise de commerce en ligne. Elle vient de publier son premier rapport de transparence. Arrivé il y a moins de 2 ans en France, le site compte plus de visiteurs que Cdiscount et même Shein, la plateforme de fast fashion chinoise. Croissance qui s'explique notamment par des partenariats avec des influenceurs, surtout ceux qui ont une faible audience, avec moins de 100 000 abonnés. Écoutez Amélie Deloche, elle est cofondatrice du collectif Paye ton influence.
Même si ces influenceurs-là, ils n'ont pas une audience aussi large que les très très gros influenceurs à des centaines de milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés, ils ont quand même un impact extrêmement important sur leur audience. Ils peuvent continuer par exemple à répondre aux messages privés qu'ils reçoivent, continuer à répondre aux commentaires, ce qui est beaucoup plus compliqué dès qu'on a plus d'abonnés. Et ce qu'ils vont valoriser, ce qu'ils vont mettre en avant en termes de collaboration commerciale, en termes de produits, bah, ça va être d'autant plus avoir la capacité à être reproduit sur leur audience et à déclencher l'achat pour des contenus ou pour des objets qui sont vendus par Temu, par exemple.
Voilà des propos recueillis par Lucie Dupressoir, 6h55 sur Radio Classique, à suivre dans un instant la matinale de David Abiker.
Parce que le monde change, InVivo, Union Nationale des Coopératives Agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundy dans l'Intelligence Alimentaire en question, chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique.
Prenez en main vos investissements avec Bourse Direct. En ce moment, bénéficiez de 200 euros de courtage offert sur les marchés français ou américains. Bourse Direct vous laisse le choix. Et en cas de transfert de votre compte, Bourse Direct s'occupe de tout et vous rembourse aussi vos frais de transfert. Rendez-vous sur boursedirect.fr pour bénéficier de vos 200 euros de courtage offert et bien plus encore. Avec Bourse Direct, vivez la bourse autrement. Offre valable jusqu'au 18 novembre. Détails sur boursedirect.fr. Risque de perte en capital. Communication promotionnelle.
Retrouvons David Barou, rédacteur en chef du journal Les Échos.
Prêt à percer les mystères du héros légendaire 13 ? À l'occasion des 40 ans de la célèbre BD, Les Échos Week-end lui consacre un hors-série collector. Décryptage, croquis, reportage, 100 pages richement illustrées pour vous plonger au cœur de cette saga mythique. Un hors-série exclusif Les Échos Week-end en vente dès maintenant chez votre marchand de journaux.
Le petit groom malicieux et ses amis reviennent dans un hors-série collector du Parisien aujourd'hui en France, Spirou et Fantasio. Gags, intrigues, voyages, plongés au cœur de 80 ans d'incroyables aventures. La saga fantastique de l'inséparable duo et tout le génie de leur créateur, dont le visionnaire Franquin. Spirou et Fantasio, un hors-série Le Parisien aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux.
On peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme pour toute commande du 4 au 9 décembre.
Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offerts. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participant du 4 au 9 décembre. Si accordiaque, voir Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Chez Poltrone Sofa, les belles surprises ne se terminent jamais. Prolongation exceptionnelle de la remise de 30% sur tous les canapés qu'on présentait en magasin. N'est-ce pas magnifique? Et si les surprises ne se terminent jamais, la remise de 30% par contre se termine samedi. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà!
Uniquement les canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
6h58, la météo.
Avec la banque Transatlantique.
Donnez de nouveaux horizons à votre patrimoine.
Virginie Fulpin, c'est un peu le classico aujourd'hui. Grisaille au nord, soleil au sud.
Et le soleil se limite au pourtour méditerranéen ce matin. Il dominera toute la moitié sud cet après-midi dans la moitié nord de la grisaille toute la journée avec des températures fraîches. 3 degrés au meilleur de la journée dans les Ardennes, 4 dans l'Aube, 7 à Paris et dans le Limousin, mais 15 à Nice et en Corse.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La matinale de Radio Classique débute. David, là ça n'est pas le classico, on va parler de censure. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire de la Ve République.
Eh bien, ça va arriver une deuxième fois. Aujourd'hui, en fin de journée, si la motion de censure de la France insoumise est adoptée, la France n'aura probablement plus de gouvernement et c'est de cette impasse politique et économique dont il sera question ce matin dans les journaux de la rédaction et avec nos éditorialistes politiques. Si la politique est à la peine et les patrons inquiets, la bourse et les valeurs françaises font de la résistance. Ce sera le décryptage de David Barrou à 8h05. L'Arabie Saoudite est-elle le nouvel Eldorado des Français? Christian Macarian s'est posé la question à l'occasion de la visite officielle d'Emmanuel Macron au pays de l'or noir. Et puis à 8h15, je recevrai l'ancien ministre du numérique devenu entrepreneur Cédric O. À la veille des entretiens de Royaumont consacrés à l'intelligence artificielle et dont Radio Classique est partenaire, Cédric O nous dira si la France n'est pas en train de louper le virage de l'intelligence artificielle. Il nous dira également si ChatGPT et Mistral AI ont une réponse à la crise politique et institutionnelle que traverse notre pays. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker
et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour.